RMC, Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur RMC jusqu'à 16h. Vous connaissez sans doute tous cette phrase qui a marqué la philosophie. Je pense, donc je suis. Cette notion, somme toute très cartésienne de la nature humaine, m'a toujours un peu dérangée. D'ailleurs, je me suis même parfois révoltée. Je ne crois pas que l'homme soit dominé par son intellect, par sa pensée, donc. Alors imaginez à quel point j'ai été ravie de découvrir qu'un philosophe osait prétendre « j'aime, donc je suis ». Et voilà comment on se retrouve, lui, vous et moi, à philosopher durant 2 heures. Et donc, on va savoir si l'amour, c'est ce qui nous rend humains, ou du moins s'il faut aimer pour se sentir vraiment exister. Vincent Cespedes est mon invité, il va évidemment développer son concept, mais vous aussi, vous avez certainement votre avis à donner, et votre témoignage m'intéresse plus que tout, aujourd'hui particulièrement, donc n'hésitez pas, est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule, j'aime donc je suis, vous appelez le 3216 et vous donnez votre avis. On retrouvera Pierre Lassus pour notre Minute Ado, et Pierre parlera de savoir d'où on vient. En actu sexe, on verra des conseils sexuels pour mari et femme. Christelle a testé une pièce de théâtre où l'on retrouve Vincent Moscato. En love conseil, je vous parlerai de quelques mythes qu'il faut peut-être faire tomber. Et en sexy news, on verra le rapport entre le cap d'ag et le 440. On va y arriver. Et puis, en alphabet amoureux, on expliquera le mot encouplement. Et notre châtelain vous attend, bien sûr, avec beaucoup d'amour. Bonjour Cyril.
Bonjour à tous. Et oui, le chat vous accueille, alors profitez-en, parce qu'on peut parler d'amour pendant 2 heures. Alors c'est merveilleux, en ce beau temps du mois de juillet, bon, allez, fin juin on va dire. Vous avez juste à vous connecter sur rmc.fr comme d'habitude et je poserai vos questions tout à l'heure à Brigitte.
Et ne vous en privez surtout pas, rejoignez notre beau Cyril. Ça c'est évidemment un private joke pour ceux qui écoutaient hier, voilà. Nous allons commencer, puis je vous le rappelle, vous pouvez jouer, n'hésitez pas, il ne reste plus que 8 transats à découvrir, donc vous avez vraiment beaucoup de chance de gagner ce voyage que nous offre RMC et le club Marmara. Donc vous appelez le 3216, vous appuyez sur la touche 6 et 3 d'entre vous seront tirés au sort et choisiront un chiffre entre donc parmi les 8 transats qui restent. Donc vraiment c'est le moment ou jamais de vous inscrire au 3216, touche 6. Nous commençons avec Sophie qui est avec nous sur RMC. Sophie, bonjour.
Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à l'invité.
Et Vincent sera là dans quelques instants. Oui. Donc vous êtes persuadée que l'amour vous a aidé à être, à exister, à vous construire.
Je suis avec mon mari, j'ai commencé avec lui à 13 ans, j'ai 42 ans. Donc,
Ah oui, ça fait presque 30 ans déjà.
Mm-hmm. Voilà, donc évidemment je suis construite avec lui.
Mm-hmm, mm-hmm. Il était jeune aussi ou il était un peu plus âgé?
Il avait 16 ans et moi j'avais 13 ans.
Vous aviez un peu... Enfin, à l'époque, 3 ans, ça faisait une vraie différence, mais aujourd'hui, plus tellement.
Oui, voilà.
Mm-hmm. Et alors, moi, j'aime toujours bien entendre ces histoires parce que être amoureuse à 13 ans de son mari et 30 ans après être toujours avec, je trouve toujours ça formidable, surtout à notre époque où on voit les couples qui n'arrêtent pas de se séparer. Mais je suppose qu'au départ, il a fallu que vous attendiez un petit peu pour pouvoir épouser cet homme.
Je me suis mariée à 20 ans.
Oui, donc vous avez attendu 7 ans. Et vos parents, au départ, devaient être un petit peu inquiets, non?
Mes parents, ils étaient très mécontents.
Ah oui, mécontents, carrément.
Très mécontents. Voilà. Ils trouvaient que j'étais trop jeune et ils avaient, on va dire, formalisé des idées pour moi.
Ça, c'est tous les parents, hein, je vous rassure. Voilà. Il n'y a pas que vous. Et à quel âge vous avez fait l'amour pour la première fois avec cet homme?
Je ne sais pas exactement, mais très vite.
Très jeune, donc.
Oui.
Alors, un peu de pudeur, vous ne voulez pas nous le dire.
Non, je ne me rappelle pas, mais très vite. Hein. Enfin, je pense que j'ai tout fait très vite dans ma vie, donc ça aussi.
Et vous êtes toujours amoureuse de cet homme?
Oui, oui. Je suis très amoureuse de cet homme. Et il le sait. Je pense qu'il a déjà compris que, malgré les crises, j'étais quand même très amoureuse de lui. D'ailleurs, il avait entendu le témoignage que j'avais eu dans votre émission.
Mmh.
Parce que je suis, donc j'aime, donc je suis, mais pas, je ne suis pas à n'importe quel prix sa femme.
Oui, vous n'êtes pas une femme soumise.
Non, je n'ai pas envie que ça soit ça.
Vous avez raison. Mmh. C'est la meilleure manière pour que le couple dure.
Mmh. Voilà.
Quel est votre secret alors?
sens. Je ne sais pas s'il y a un secret, s'il y a une potion magique. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour que de toute façon on ne commande pas et que qui permet de patienter ou de laisser l'autre comprendre, entendre. Maintenant, c'est pas tout gagné du premier coup.
Bien sûr, mais je crois qu'un des secrets pour comme ça pouvoir dépasser les conflits, les crises qui sont inhérentes à tous les couples, bah, c'est de ne pas tout attendre de l'autre et de savoir qu'on avance ensemble.
Oui, et je pense aussi que de l'autre, savoir qu'il n'est pas complètement le possesseur de la direction dans laquelle on va, que le couple va, fait que... Il laisse un petit peu la possibilité à l'autre d'exprimer ses désirs, ses mécontentements.
Est-ce qu'on pourrait dire finalement que l'amour, c'est un peu votre essence, mais que malgré tout, vous restez maître de votre vie, de votre véhicule ?
Ben, j'espère quand même.
Non, mais j'essaye de trouver une image comme ça qui pourrait expliquer à quel point l'amour est essentiel, mais en même temps, c'est pas tout.
Non, c'est pas tout, évidemment, c'est pas tout, parce qu'il y a l'amour, il y a l'amour du couple, il y a l'amour des enfants, il y a l'amour de ce qu'on fait au quotidien, il y a l'amour de sa vie, quoi. Hein. C'est un ensemble. Hein. Mais il est vrai que si on laisse aussi la possibilité d'être, hein, on est mieux, et on est mieux, on aime mieux.
Merci Sophie de votre témoignage, en tout cas.
Bah, je vous remercie. Et je vous remercie de m'avoir écouté et conseillé au mois de septembre.
Ben, je suis là pour ça et n'hésitez pas si vous avez un jour encore besoin de moi.
Okay, merci.
Je vous embrasse Sophie,
au revoir.
Pierre Lassue, notre minute ado du jour, savoir d'où on vient. Bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à tous. Vous savez, l'âge de l'adolescence, c'est l'âge où on cherche ses racines, on a envie de savoir en effet d'où on vient. Il y a même beaucoup d'adolescents qui se racontent ce qu'on appelle un roman familial. Ils s'inventent des parents tout à fait extraordinaires. Mais actuellement, il y a de plus en plus d'enfants qui vont avoir un problème pour savoir d'où ils viennent, parce que, comme vous le savez, on a de plus en plus de procréation médicalement assistée, comme on dit, et notamment avec des donneurs de sperme anonymes.
Et oui, on parle même de mères porteuses, alors.
Voilà. Alors, il y a un débat actuellement sur la bioéthique, où le problème est posé de savoir s'il faudrait que ces donneurs de sperme ne soient plus anonymes, pour que l'enfant, quand il arrive justement à l'âge de l'adolescence, où il cherche ses repères, pour savoir d'où il vient, il faudrait qu'il ait accès à ce donneur qui, jusque-là, était resté anonyme. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée parce que je pense que les donneurs de sperme le font pour permettre qu'une vie nouvelle naisse, que des parents potentiels qui ne peuvent pas avoir d'enfant puissent en avoir. Il n'est pas sûr qu'ils veuillent avoir un enfant eux-mêmes. Donc je pense que si la loi est modifiée dans ce sens-là, ça risque de décourager les donneurs. Et puis d'autre part, je pense que cette recherche est un peu une recherche illusoire. L'enfant ne vient pas des spermatozoïdes qui ont été donnés, mais il vient du désir de ses parents d'avoir eu un enfant. Et je crois qu'il faudrait aider ces jeunes en quête d'origine, de leur dire que l'origine de leur origine, c'est un monsieur, une dame qui se sont mis ensemble, qui s'aiment et qui ont voulu avoir un enfant ensemble, peu importe le patrimoine génétique duquel il est issu.
C'est joliment dit, Pierre Lassue, c'est vrai, c'est joli. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de cette demande que font certains enfants qui sont nés de mères, qui sont nés sous X, ça y est, je me souvenais plus de l'expression,
oui.
Et qui réclament aussi le droit de savoir qui était leur mère.
C'est
pareil,
tout à fait
finalement.
Le comprendre, hein.
Bien sûr, oui.
Maintenant, si leur mère a décidé de ne pas les avoir, a décidé de ne pas être la mère, se contentant de les mettre au monde, elle avait sûrement ses raisons. Et je pense qu'il est assez difficile, une fois qu'elle a décidé ça, de venir la troubler, je dirais. Maintenant, ce qui serait peut-être possible, c'est que la mère qui accouche sous X dise qu'elle accepte éventuellement qu'on puisse la contacter. Et si le jeune a envie de la revoir, de la retrouver, qu'on puisse à ce moment-là les mettre en rapport. corps l'un et l'autre. S'il n'y a pas de désir de sa part, je ne vois pas quel sens ça a de vouloir retrouver cette femme qui l'a portée, comme une mère porteuse justement, et qui n'a pas voulu être sa mère. Donc il faut aider, je crois, les jeunes à faire le deuil de ce fantasme, parce que c'est bien de l'ordre du fantasme, qui étaient ses parents géniteurs, mais qui n'ont pas voulu l'avoir comme enfant, alors que d'autres ont voulu l'avoir comme enfant.
Merci Pierre Lassuie de cet éclairage.
Au revoir Brigitte.
Jean-Pierre, vous êtes avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour. Voilà, je vous...
Oui. Oui Jean-Pierre, alors justement, les enfants, on les veut et puis parfois ça crée après des soucis dans le couple. Hein.
Voilà, c'est ça. Parce que là, franchement, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé. Je lui ai encore parlé pourquoi qu'elle voulait plus, tout ça. Quoi. Elle ne me donne pas de réponse, rien du tout. Quoi.
Vous êtes mariés depuis combien, vous êtes ensemble depuis combien de temps?
Depuis mars 2008.
Donc c'est récent. Voilà. Vous êtes rencontrés en mars 2008, c'est ça?
On s'est rencontrés en 2005.
Ah oui, d'accord. Mais vous êtes mariés en 2008 et l'enfant est né il y a combien de temps?
L'enfant est né, ça fait 20 mois.
20 mois, oui.
Voilà. Et donc, voilà quoi.
Elle est plus jeune que vous, hein, je crois qu'elle a 30 ans.
Elle a 30 ans, oui, c'est ça, oui. Elle a 30 ans.
Et depuis 20 mois, vous n'avez pas eu la moindre relation sexuelle?
J'ai eu des relations sexuelles. Et puis là, c'est tous les 3 mois, c'est tous les 4 mois. Elle me dit qu'elle a mal et que, enfin, c'est la pilule, voilà quoi.
Oui, mais si elle vous dit qu'elle a mal, c'est peut-être vrai. Et si elle a mal, on peut comprendre qu'elle ne veut plus avoir de rapport. Donc il faut peut-être trouver la cause de la douleur et régler cette histoire de douleur d'abord.
Je lui ai dit d'aller voir un médecin, tout ça. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle m'a dit seulement hier encore, elle va poser un stérilet.
Oui.
Alors voilà, quoi. Je ne sais plus quoi faire. C'est le soir qu'on rentre, c'est qu'on s'engueule, c'est qu'on parle toujours de ça. Puis elle ne me donne pas de questions, elle n'a rien du tout.
Vous avez le sentiment que la douleur qu'elle a, et qui est certainement réelle, sert un peu d'excuse et c'est un moyen de vous repousser? C'est comme ça que vous vivez les choses en tout cas?
Je pense, parce que quand je la touche le soir, c'est qu'elle se pousse. Et quand je lui dis « viens à côté de moi pour regarder la télé », elle ne veut pas. Elle est toujours vers son fils, vers notre fils, pardon. Voilà quoi.
Oui.
Mais je l'ai connue, c'est qu'elle était vierge.
Et quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez des relations sexuelles très satisfaisantes ou il y avait...
Oui. Disons que après tout ça, c'est qu'on a fait l'amour pour la première fois pour elle. Et puis après, c'est qu'on a fait l'amour souvent. Et puis après, c'est quand le bébé il est né. Eh bien, plus rien, quoi.
Oui, mais encore une fois, Jean-Pierre, vous savez, le fait de mettre un enfant au monde, pour une femme, c'est quelque chose qui peut vraiment transformer sa sexualité. Et là, en plus, vous me dites qu'elle se plaint de douleur. Donc, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui coince.
Ouais.
Donc, il faut peut-être avoir un peu plus d'empathie pour elle. Parce que ce que je sens, c'est que vous êtes tellement en demande sexuelle... que ça occulte un petit peu tout le reste. Quand vous allez pour la prendre dans vos bras, elle sent tellement cette demande sexuelle qui transpire qu'elle vous repousse peut-être.
Ouais, peut-être, oui.
Et je crois qu'il faut vraiment prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose qui a été blessé chez elle. Je dis pas que c'est facile, hein, mais je crois qu'il faut vraiment que vous compreniez ça.
Mais bon, je pense...
Vous avez refait l'amour combien de temps après la naissance de l'enfant?
4 fois.
4 mois?
Oui, à peu près, oui.
D'accord. Donc, vous avez attendu un petit peu de temps quand même.
Ah oui, quand même, oui.
Elle a eu une...
Parce qu'elle est d'origine marocaine.
Oui.
Alors, voilà, quoi.
Est-ce que par hasard, elle ne serait pas excisée? Parce que ça, c'est parfois des choses qui...
Enfin, parce qu'elle a eu du mal à le sortir, c'est qu'ils étaient obligés, c'est de la...
Une épisiotomie. Oui, d'accord. Oui, non, c'est pas la même chose. Moi, je parlais d'une excision, mais là, vous parlez d'une épisiotomie.
Ah ouais,
donc, il y a peut-être une douleur au niveau de la cicatrice. Et moi, je vous conseillerais, Jean-Pierre, de l'aider à aller voir une femme kinésithérapeute qui lui ferait faire des exercices de rééducation périnéale.
Voilà. Et je lui ai dit parce que elle a des pertes. Je lui ai dit, c'est d'aller voir un médecin, ces pertes-là, quoi.
Et je crois que c'est mieux qu'elle aille voir une femme kiné spécialisée dans la rééducation périnéale. Je crois vraiment que dans votre cas, c'est ça qui peut aider cette femme à retrouver l'intégrité de son corps.
D'accord.
Tant qu'elle n'aura pas repris son corps en main, je crois que votre sexualité, elle n'ira pas bien.
Ouais, d'accord, parce que c'est dans le fond, c'est qu'on s'aime tous les deux, mais bon, voilà quoi.
Alors dites-lui que vous comprenez et que vous allez être patient et emmenez-la consulter quelqu'un qui va l'aider à retrouver son corps.
D'accord, ok.
Mais il faut en revanche qu'elle aille et qu'elle pratique ses exercices et qu'elle reprenne conscience de son vagin, parce que là quelque part c'est un endroit qui est devenu douloureux, tabou. Il y a quelque chose qu'il faut réinvestir autrement.
D'accord. Et puis enfin, j'aurais voulu savoir, est-ce que ça provient de la pilule, parce que elle me dit que quand elle prend la pilule, elle a mal.
Non, je vois pas en quoi la pilule peut lui faire mal. Mais vous savez, après, c'est tellement compliqué ces histoires de douleur et de psychisme qu'on ne sait plus très bien qu'est-ce qui provoque la douleur, si la douleur elle n'est pas aggravée par une sorte de fixation. Enfin, non, mais la pilule, a priori, il n'y a aucune raison que la pilule fasse mal sur un plan corporel.
Et puis, il y a aussi sa cousine, c'est qu'elle a accouché, son fils, c'est qu'il a 4 ans, et ça fait 4 ans que son mari ne couche pas avec sa femme. Et puis moi, j'arrête pas, c'est de lui dire, oui, fais pas comme ta cousine.
Oui, mais on voit bien que dans toute cette histoire, il y a quelque chose de culturel aussi. Hein. Il faudrait aussi se poser la question comment sa mère a vécu sa sexualité après avoir mis ses enfants au monde. On voit bien que là, quelque part, c'est compliqué pour elle d'être à la fois mère et de rester votre maîtresse.
Ah, d'accord.
Mais d'abord, régler le problème du corps et de la douleur. Ça, c'est vraiment la première chose à faire.
D'accord.
Merci, Jean-Pierre.
Et puis, votre émission est très bien. Je l'écoute depuis des années.
C'est gentil, merci.
Et enfin, voilà.
Bah, faites-lui écouter un peu l'émission aussi, ça va l'aider.
Ouais, ok.
C'est pas gagné non plus, ça. Hein.
D'accord. Est-ce que je peux passer un petit bonjour?
Ben oui, je vous en prie, bien sûr, Jean-Pierre.
Je dis bonjour à Thierry et Frédéric, parce que je suis de la Dordogne. Eux, ils sont de Paris et c'est mes frères.
Bonjour, Thierry et Frédéric.
Voilà. Merci Brigitte Lahaye.
Au revoir Jean-Pierre.
À bientôt, au revoir.
Arnaud est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Je voulais réagir sur ce que disait le monsieur à propos
Pierre
du
bonheur biologique. Oui.
Voilà, tout à fait. Je suis un petit peu déçu de sa réaction. Je pense qu'il n'a peut-être pas pensé à tout. Parce que si moi, par exemple, je venais à naître sans pour autant connaître ma famille réelle biologique, je pense, si par exemple mon père réel ou ma mère réelle avait des maladies cardiovasculaires ou cancer ou je ne sais quoi, je pense qu'il serait quand même préférable que je sache moi-même si quels sont mes risques dans ma vie. Et donc, en fin de compte, je pense quand même que l'enfant a le droit, quand même fort, c'est quand même pour sa santé, a le droit de pouvoir rencontrer ou au moins avoir quelque chose sur un avis médical, sur son père, sa mère biologique, je sais pas, mais je pense que c'est important quand même que l'enfant puisse savoir quels sont ses risques dans sa vie.
Ah oui, ce fameux principe de précaution en quelque sorte. Hein. Mais peut-être que bientôt, on saura grâce à l'ADN quels sont nos risques génétiques de maladie, ça simplifierait les choses. Je crois Arnaud, je comprends votre argument, mais je crois qu'il faut d'abord, avant tout, faire attention que ça ne qu'une si vous voulez une loi qui a priori partirait d'un bon sentiment se retourne pas contre les intéressés eux-mêmes.
Alors je suis complètement d'accord avec vous, mais bon, je ne connais pas tout. Hein. Je suis chauffeur routier, je ne connais pas tout. J'ai mon domaine à moi.
Moi non plus, vous savez.
Voilà. Mais est-ce que par exemple, quand un donneur de sperme donne, est-ce que il lui faut remplir une fiche sur sa famille, sur ses antécédents, pour savoir?
Alors je ne sais pas tout non plus, mais il est certain que n'importe qui ne peut pas donner son sperme.
Il faut avoir,
je crois, entre 30 et 45 ans. Il faut avoir déjà eu des enfants. Il faut être en bonne santé. Enfin, il y a quand même
des gens qui déclarent quand même des pathologies arrivées à 40-50 ans. S'ils donnent, je sais pas, diabète ou je ne sais quoi. Pour autant, avant, ça allait bien. Je ne sais pas si à 35 ans, quand l'homme donne son sperme, est-ce qu'il est au courant vraiment que 10 ans après, il risque de faire une maladie? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais le 100% pas de risque, Arnaud, n'existe pas. Je crois qu'il
oui,
faut.
C'est vrai.
Vous voyez, et on manque plutôt de donneurs de sperme. Je ne parlerai même pas de donneurs d'ovocytes.
Donc, je porte aux familles, c'est une évidence.
Et donc peut-être qu'il vaut mieux avoir un enfant, même si à 50 ans il devient diabétique parce que le donneur de sperme avait du diabète, vous voyez, c'est peut-être moins grave que de ne pas avoir d'enfant du tout. Maintenant, je comprends aussi votre argument, mais cela dit, il y a des précautions, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas n'importe qui comme donneur de sperme, de toute façon.
D'accord.
Donc il y a quand même vraiment des précautions qui sont prises dans ce sens-là.
Enfin bon, je voulais quand même donner mon...
Mais vous avez raison.
Je pense que c'est un sujet quand même qui mérite réflexion.
Mais on n'a pas fini.
Et que la France écoute mon petit message me rassure, et j'espère que beaucoup de familles qui sont dans le besoin d'avoir des enfants pensent quelque part un petit peu à ça aussi.
Merci d'avoir réagi aussi vite, Arnaud.
Mais je vous en prie, Brigitte, je vous en prie.
J'aime bien quand vous prenez la parole et que vous donnez votre avis. Ça fait avancer les choses. Merci.
Eh bien, c'est gentil.
Et bonne route. Au revoir.
Merci Arnaud. Bien, au revoir.
On se retrouve dans un instant avec notre actu sexe du jour, des conseils sexuels pour les maris et pour les épouses. Et bien sûr, nous accueillerons Vincent Cespedes qui est là et qui va nous parler d'amour.
RMC Brigitte Lahaye, actu sexe.
Eh bien, nous retrouvons Julie du site Second Sexe. Bonjour Julie.
Bonjour Brigitte.
Et alors là, évidemment, on a envie de savoir quels sont ces conseils sexuels pour mari et femme que l'on trouve sur votre site.
Alors écoutez, on a débusqué un petit ouvrage anglais qui date de 1894, écrit par une femme, Ruth Meiser, et qui s'appelle Sex Tips for Husband and Wife, donc en français, conseils sexuels pour mari et femme. Le sujet, c'est donc de donner aux femmes des conseils pour éviter le plus possible de subir cette corvée intolérable.
Et du devoir conjugal, donc. Hein,
du devoir conjugal, absolument. Donc, tout y passe, du conseil de rester le plus immobile possible, de montrer le moins de plaisir possible pour que le mari se dégoûte de lui-même de fréquenter la couche conjugale, en passant par les migraines et les indispositions diverses et variées.
Mais ça se veut humoristique ou c'est vraiment pris au premier degré?
C'est du premier degré. On est à la fin du 19e siècle, une époque, comme on le voit, où le plaisir des femmes, le plaisir féminin était complètement une question étrangère aux esprits de l'époque. La femme avait beaucoup de devoirs et encore assez peu de droits, hein, comme on le sait à l'époque, sur le plan sexuel comme sur tous les autres plans d'ailleurs. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette femme en parle, hein, c'est-à-dire qu'elle ait trouvé le moyen de publier un livre sur le sujet, même si c'est pour en dire du mal et si c'est pour donner ce genre de conseils, qui sont quand même désastreux, elle en parle, ce qui n'était vraiment pas le cas à l'époque. Elle met des mots sur un discours chuchoté pudiquement des mères à leurs filles au moment de leur mariage, qui était un discours réel. Hein, qui était...
Alors aujourd'hui, j'imagine, quand on lit tout ça, ça fait plutôt sourire.
Ah bah ça fait plutôt sourire, oui.
et c'est pour
ça
que vous
l'avez. On est très contente de vivre en ce 21e siècle très chaud et évidemment où fleurissent moult guides sur Internet et dans les librairies pour aider les femmes à épanouir leur plaisir et leur sexualité, ça c'est certain. En tout cas, les temps ont bien changé. Hein.
Bon, bah, si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez aller sur le site secondsexe.com voilà. Pour en lire quelques extraits.
C'est un ouvrage anglais qui n'est pas publié en France, mais qui se trouve sur des sites Internet.
Voilà. Enfin, merci Julie. Merci
je vous
beaucoup.
En prie. Au revoir Brigitte.
RMC, Brigitte Lahaye. La haie, l'amour et vous.
Vincent Cespedes, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes philosophe, vous avez écrit beaucoup sur l'amour, hein, beaucoup d'ouvrages. Et là, c'est une sorte de cahier qui vient de sortir aux éditions Larousse. J'aime donc je suis. Et alors, c'est très amusant parce qu'au fond, vous invitez le lecteur à remplir quelques pages, à faire lui-même la découverte de ce qu'est l'amour, avec un grand A, un petit A. Oui, avec DS.
Avec DS. En fait, l'idée, c'était un peu de faire une sorte de cahier de vacances philosophique, car il s'agit quand même de philosophie, mais de façon très ludique, comme un peu les cahiers de vacances peuvent le permettre. Ils offrent des petites fenêtres comme ça où on peut explorer plusieurs champs. Et un cahier de vacances sur l'amour, en fait. Parce que je vois beaucoup, beaucoup de gens, bon, j'ai écrit effectivement des ouvrages, qui, certains assez complexes, certains avec beaucoup trop de références philosophiques et ancrées dans une tradition. Là, ce que je voulais, c'est que le lecteur ou la lectrice puisse dire ce qu'il ou elle pensait de sa façon d'aimer. Donc c'est un peu une sorte d'invitation à l'introspection, mais vraiment gourmande et ludique, hein, y a pas du tout de prise de tête. C'est par contre, on explore plusieurs champs, il y a 10 questions, et c'est vraiment l'idée d'une petite pause méditative. Souvent les vacances sont un moment où on peut réfléchir sur soi, faire le point de l'année, faire une sorte de bilan, et là l'idée c'était de faire ça sur ses amours, où vais-je, dans quelle étagère, comment mon cœur bat, et est-ce que je reproduis aussi des schémas qui ne me vont pas, comment ça se fait. Et c'est pour ça, c'est vraiment la philosophie qui engage à réfléchir sur soi-même. Connais-toi toi-même.
Alors, on parle d'amour, mais on parle aussi de sexe, hein, parce que il y a des chapitres, par exemple, peut-on apprendre à faire l'amour? Sommes-nous tous bi? Enfin, on voit bien que c'est l'amour. Dans toutes ses formes, bien sûr.
Oui, ça reste charnel. Il ne s'agit pas d'isoler le sexe et l'amour, il s'agit de montrer comment les deux sont brodés ensemble, se tissent. On dit souvent, et c'est très commode, pour le mari qui a une femme volage, par exemple, de dire, oh oui, mais c'est que du sexe, finalement, elle ne l'aime pas. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué, c'est-à-dire quand vous avez une relation d'abandon avec l'autre, un échange physique, des caresses et de la tendresse, il y a aussi l'amour-sentiment qui est là, on ne peut pas se séparer les deux. Et inversement, quand vous avez le désir de l'autre et
l'envie... Bien sûr, je les entends tous les jours. Ouais. Ils essayent bien de m'expliquer qu'il y a d'un côté le sexe et de l'autre côté l'amour.
C'est très commode parce que ça permettrait de gérer l'amour. Et on voit bien que le fait de vous appeler, le fait de vous demander conseil, montre bien qu'on n'arrive pas à gérer l'amour. C'est la plupart du temps, c'est l'amour qui nous gère.
Et oui, parce que c'est avant tout un sentiment et donc ça échappe à l'intellect. Voilà, donc j'aime, donc je suis Delphine, visiblement. Vous êtes certainement d'accord avec ça. Bonjour Delphine.
Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Oui, effectivement, bonjour. Je suis particulièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, notamment sur l'amour psychologique, l'amour sentiment, mais également l'amour physique que, en l'occurrence, je ne dissocie pas de ce que je vis aujourd'hui, puisque je vis depuis 8 ans une histoire absolument merveilleuse avec mon homme. Nous sommes ensemble depuis ces années et effectivement, aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis devenue grâce à lui une femme et je me sens être. Voilà, je me sens être femme, être désirable, être belle. Donc ça rejoint ce que vous disiez, à la fois le psychologique, parce que c'est super important de se voir et de se sentir être à travers l'amour de l'autre, mais de se sentir désirable aussi pour soi, se sentir sensuelle et épanouie. Ça rejoint le côté amour physique également.
Alors Vincent Cespedes, Sophie, notre première auditrice aussi disait « Je me suis construite grâce à l'amour ». Delphine nous dit « Je suis devenue grâce à l'amour ». Est-ce que c'est très féminin ou est-ce que ça pourrait être aussi masculin? Et qu'est-ce que vous en pensez sur
ça résonne avec ma philosophie que je mets un tout petit peu en filigrane dans ce cahier, oui. Car je suis quand même co-auteur avec le lecteur. Effectivement, en fait, l'amour, effectivement, est sentiment, mais l'erreur première consiste à croire que l'amour est un sentiment. Or, l'amour est un mélange de sentiments. On dit le sentiment amoureux, mais c'est les sentiments amoureux. Et en fait, l'amour qui transforme l'individu, l'amour est une force de transformation, c'est vrai, vous avez raison. La plupart des femmes sont, disons, plus facilement, je pense que c'est culturel, hein, je pense pas que ce soit physiologique, mais culturellement, que la femme puisse se transformer, évoluer, c'est quelque chose de plus admis pour la femme, alors que l'homme, lui, au contraire, veut rester ce qu'il est lui-même. Il résiste encore, il y a des progrès, mais il résiste encore à l'idée d'une transformation de lui-même. Mais l'amour, je dirais surtout, est un événement. L'amour, c'est ce qui nous frappe, nous secoue, nous fait devenir, comme disait Delphine. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut l'appréhender. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête un peu de vouloir gérer l'amour, mais qu'on essaie plutôt de s'abandonner à l'amour, à ce maelstrom d'événements qui nous transforme au contact de l'autre.
Delphine, vous êtes évidemment... Vous buvez les paroles de Vincent, j'imagine.
Absolument.
Attention, vous allez tomber amoureuse de lui.
Oh, mais allons-y gaiement.
Écoutez, je crois crois que mon cœur est rempli d'amour et je vais les garder pour mon Vincent à moi aussi.
Ah, ben voilà.
Mais je rebondirai un petit peu en disant qu'effectivement c'est une multitude et une plénitude de sentiments et aujourd'hui je pense que ça peut être vecteur de beaucoup de choses à la fois positives et à la fois négatives. Ça permet à mon sens, ça permet de dépasser vraiment ses propres limites, j'allais dire de lutter même contre ses propres démons ou d'affronter la vie au quotidien. Et c'est vraiment, je dirais que l'amour c'est un moteur, c'est un carburant aujourd'hui.
L'amour rend plus fort en quelque sorte.
Voilà, voilà. C'est tout à fait ça. C'est vraiment une énergie, c'est presque un remontant, une vitamine et ça aide beaucoup dans la vie. Hein.
Mais ce qui est très important dans ce que vous dites, Delphine, c'est que on sent que vous êtes amoureuse. On sent que vous êtes amoureuse dans votre voix, dans votre joie. On sent que vous souriez quand vous en parlez. On imagine que vous avez des étincelles dans le regard. Et ça, c'est vraiment le meilleur professeur pour apprendre à aimer, pour ceux qui seraient un peu plus... où l'amour serait un peu plus compliqué. Les meilleurs professeurs, les meilleurs guides en amour, ce sont des gens qui vivent l'amour. Il suffit de les observer. Quand vous dites « je garde tout pour mon Vincent », mais vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose qui déborde forcément. Alors bien sûr, c'est...
On prend, Delphine,
voilà,
on prend
de votre lumière. Et on prend
de
votre lumière.
Prenez.
Voilà, et donc ça rend...
Je donne ces cadeaux, mais c'est vrai que c'est tellement beau. Et vous avez entièrement raison sur ce que vous dites, parce que on me fait souvent la remarque, mes amis, mes proches, mon entourage, me disent que je déborde d'amour, de passion et que
c'est contagieux.
Et que du coup j'essaye de le transmettre un petit peu.
Exactement, c'est contagieux et c'est souvent on dit la peur est contagieuse, l'insécurité est contagieuse,
ouais.
La haine est contagieuse. Il ne faut pas oublier, c'est être humaniste que de le dire au sens philosophique, que aussi l'amour est contagieux. Et souvent on sous-estime cette force de contagion. Quelqu'un de solaire, quelqu'un qui arrive à s'abandonner, apprend aux autres à répandre de la lumière et à s'abandonner.
Merci beaucoup Delphine pour votre témoignage. 3216, si vous avez du mal justement à aimer, c'est le moment ou à jamais d'appeler au 3216 pour qu'on essaye de vous guider et qu'on essaye de ouvrir votre cœur. Merci Delphine, on se retrouve dans un instant.
Brigitte Lahaie, La Haye, l'amour et vous.
Alors l'amour, parfois ça va pas toujours là où il faut et c'est Michel donc qui nous envoie ce mail. Je vis avec une amie depuis 2 ans et il y a 6 mois j'ai découvert en fouillant, alors ça c'est pas bien hein, Michel, en fouillant dans son ordinateur, en fait je récupérais des logiciels et un mot de passe, qu'elle aime toujours son ex, qu'elle lui envoie des SMS pratiquement tous les jours, qu'elle a même parfois tendance à l'appeler avec son portable et dans ses échanges de dialogue, elle ne ferme jamais la porte aux propositions de le rencontrer. Comme j'ai obtenu ces informations frauduleusement, je ne sais pas trop comment lui dire et malgré tout, je n'ai pas envie de la perdre. Merci pour vos conseils. Donc voilà. Donc déjà, il y a d'ailleurs un chapitre dans votre ouvrage hein, sur le jardin secret et transparence. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, évidemment, il ne faut jamais aller fouiller, ça c'est sûr, parce qu'on risque de se faire mal. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous conseilleriez à Michel, d'être philosophe, évidemment.
Oui, d'être philosophe, mais surtout de comprendre le fond de peur qu'il y a derrière tout ça. Et c'est en fait la peur d'être abandonné. C'est très compliqué aux gens qui ont peur. On dit même en psychiatrie, les abandonniques. Les personnes abandonniques, c'est ceux qui, justement, ont une terreur farouche de l'abandon. Ils sont angoissés à l'idée d'une rupture, à l'idée que l'autre va faire sa vie ailleurs, etc. Il faut simplement se rendre compte que l'amour, en fait, la rupture, c'est quelque chose de conventionnel. Mais en fait, ça n'existe pas. Un lien, l'amour fait naître un lien qui ne peut pas être rompu. Il y a le souvenir, mais il y a plus que ça.
Là, vous êtes en train de l'inquiéter un peu plus. Hein.
Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est de jouer avec ça. L'amour doit rester ludique, doit être un jeu. Il faut en jouer au sens où, quand on dit il y a du jeu, il y a du lest. Vous savez, ça circule. Donc, c'est très important de comprendre que l'amour, c'est pas quelque chose de statique, et puis de sortir du contrat. Donc, cette jalousie qu'elle a, elle ne pourra la résorber, à mon sens, que si elle accepte de...
Bah, c'est un homme, hein, Michel.
Que s'il accepte, peu importe, là, les deux sexes sont touchés, que si on accepte justement de dépasser cette peur. Là, c'est très important.
Michel, construisez le lien que vous avez avec elle plutôt.
RMC, Brigitte Lahaie, l'amour et vous.
Vincent Cespedes, je vous propose qu'on aille voir si sa philosophie aussi, si sa philosophie,
vous avez le droit à philosophise.
philosophez-vous sur le chat.
On philosophe, et d'ailleurs, moi là j'ai un chatter, mais c'est loin d'être de la philosophie. Il me disait à l'instant, moi sans mon pénis, je n'aurais plus rien à faire sur cette terre. Alors moi, à les lire dans leur globalité, j'ai l'impression que les femmes ne peuvent pas vivre sans amour et que les hommes ne peuvent pas vivre sans sexe. Alors j'aimerais savoir si l'amour, c'est finalement un concept globalement féminin.
Mais c'est très simple, les hommes écrivent avec leur pénis et il y a de l'encre qui sort pour écrire « je t'aime », voilà.
C'est de la poésie. Là.
C'est peut-être de la poésie, mais enfin, ça peut aussi être de la philosophie. Alors est-ce que les hommes aiment plus le sexe et les femmes aiment plus le cœur ?
Non,
cliché quand même.
Oui, c'est un grand cliché. Effectivement, le sexe pour les hommes, c'est quelque chose où ils s'affirment et se construisent. Ils construisent leur virilité. Mais la virilité est en crise aujourd'hui et elle va être reconstruite. Elle est en phase d'être reconstruite vers plus d'humanité. Et au bout du compte, on voit d'ailleurs des hommes qui acceptent de s'abandonner à leurs émotions, qui acceptent leur fragilité et qui font de leur fragilité leur force. Donc on est en pleine crise, on est en pleine transition et je pense que on commence à comprendre toute la génération qui a été élevée un peu à l'amour viril, l'amour, l'homme qui prend, la femme qui reçoit, etc. Tout ça, ça vole en éclats. Ça va aussi avec le couple, on en parlait tout à l'heure. Ça va aussi avec beaucoup de choses qui sont remuées. Donc non, je pense que l'homme doit apprendre, l'homme doit s'ouvrir aux émotions. Le sexe doit devenir un épiphénomène au bout du compte. Ce qui compte, c'est la vibration, l'échange, l'abandon que permet l'amour, la discussion intellectuelle. Vous savez qu'on peut avoir une proximité énorme juste en riant. Le rire peut être plus fort qu'une jouissance sexuelle parfois, quand il y a une complicité. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on crée, quelle est la complicité que l'on noue. Et l'amour, pour le dire très simplement, est une création à deux, une création.
Christelle est avec nous, elle a été voir cette pièce où l'on retrouve également Vincent Moscato. Le siècle sera féminin ou ne sera pas, on reste un peu dans le même genre d'idée. Christelle, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour.
Alors ça se joue du mardi au dimanche au Théâtre du Gymnase à Paris.
Tout à fait, qui est un très beau théâtre d'ailleurs, le Gymnase Boulevard Bonne Nouvelle. Et j'ai eu de la chance Brigitte hier, j'ai vraiment eu du bol parce que j'ai vu une pièce exceptionnelle. Dans le sens où le texte est bien écrit, donc par Dominique Coubet et Nathalie Vierne. C'est bien écrit, c'est merveilleusement interprété. On est dans un décor où très vite, nous, spectateurs, on est happés. On est dans le décor d'un immeuble où des voisins partagent leur avis sur les élections, sur la campagne présidentielle à venir, où se présente d'ailleurs une femme. Et donc vous imaginez le rapport entre les hommes et les femmes à l'idée qu'une femme puisse être élue président.
Oui, donc en fait c'est un panel de gens, un monsieur, madame, tout le monde, mais avec évidemment différents niveaux sociaux. Il y en a qui sont plutôt de droite, d'autres plutôt de gauche, et ils sont en train donc de discuter de ces fameuses élections présidentielles. Et il y a à un moment donné un événement inattendu. On va pas révéler ce que c'est, hein, bien sûr.
Non.
Et c'est évidemment prétexte à rire, j'imagine, cette pièce.
Alors voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, la salle du gymnase en éclat de rire tout au long de la pièce, vraiment, c'est une heure et demie, avec ce fameux Vincent Moscato, qui est quand même hyper talentueux parce que c'est un comédien hors pair. Chaque fois qu'il arrive sur scène, de toute manière, rien qu'à le voir...
Oui, je suis d'accord. Je vous assure, même dans le studio d'RMC, quand chaque fois que je le vois, je suis de bonne humeur. Il a...
Il a de la chance aussi, alors. Non, parce qu'il a vraiment ce que j'appelle le Mosca vocabulaire, parce que je l'écoute un peu sur RMC là, à 18h, comme oui. Je vous écoute souvent aussi, Brigitte, et c'est un vrai régal d'écouter RMC. Mais là, sur scène, il est vraiment à mourir de rire. Ce type est très, très bon. Et puis, tous les comédiens, d'ailleurs, vous avez un Philippe Lelouch, David Énergie, les filles comme Isabelle Ferron, qui est la femme de Moscato dans la pièce, est très, très drôle. Lucie Jeanne, qui est la femme de Maxime, qui faisait un one man, qui est un très bon comédien aussi. Enfin, tous ces comédiens au nombre de 13, je crois, mais vraiment nous font mourir de rire pendant une heure et demie. Et je crois que il n'y a pas beaucoup de pièces où on a ce vrai bonheur, quoi. C'est un arc-en-ciel, vraiment, vraiment. Je suis ressortie de là avec une grosse, grosse pêche et de très, très bonne humeur, c'est vrai.
Et la note va être excellente, j'imagine.
La note, si on peut pas mettre 10 parce que ce serait parfait, quoi qu'avec Moscato, c'est parfait, hein, vraiment. mais on va mettre 9, Brigitte.
9 sur 10. Le siècle 10, sera féminin ou ne sera pas, c'est au Théâtre du Gymnase à Paris, du mardi au dimanche. Alors courez aller voir cette pièce et amusez-vous bien. Je transmettrai bien sûr à Vincent Moscato qu'il a une fan de plus. Hein. Merci Christelle.
Merci à vous, merci et bonne continuité.
Au revoir.
Au revoir.
Dépêchez-vous, il vous reste très peu de temps pour vous vous inscrire au jeu RMC Club Marmara, 32-16, touche 6. Et 3 d'entre vous seront tirés au sort tout de suite après les infos et choisiront un transat. Il reste 8 transats. Parmi ces 8 transats, il y en a un qui vous embarque en vacances pour 2 personnes, tout frais payé. Ça vaut le coup d'appeler le 32-16 et d'appuyer sur la touche 6. Philippe, vous êtes avec nous sur RMC. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous avez 45 ans, vous avez des soucis avec votre épouse.
Oui, c'est des soucis, ce sont des soucis qui deviennent majeurs. C'est que, j'étais marié pendant 18 ans. Le premier souci, c'est que, je suis resté avec mon ex-épouse jusqu'à ce que mes enfants aient 15 ans. De toute façon, à ce qu'ils comprennent et qu'ils aient une éducation, je dirais, sur le bon chemin.
Mm-hmm.
Et puis après, je me suis séparé, donc j'ai retrouvé la personne avec qui je suis et que j'adore, que j'aime et que je fais n'importe quoi pour elle, disons. Et depuis maintenant presque un an, elle a découvert un jeu sur Internet qui s'appelle Poker et qui me pourrit ma vie de couple au sens propre du terme, c'est-à-dire que sans arrêt, c'est des tournois par-ci, des tournois par-là.
D'accord, elle est devenue addicte du jeu, en fait.
Oui.
C'est ça. Et votre couple en pâtit terriblement.
C'est moi qui en pâtis, parce qu'elle n'a pas l'air de se rendre compte.
Hein. Vous, bien sûr. Non, mais Philippe, vous, bien sûr, mais votre...
Comme on dit vulgairement, de temps en temps, je pète les plombs parce que je me retrouve seul.
Vous savez que Patrick Bruel a perdu son ex-femme à cause du jeu, justement, parce qu'il était un peu trop accro du jeu. Hein.
Oui, justement, à ce propos, elle me parle souvent de Patrick Bruel, parce que quand elle ne joue pas, elle regarde sur Energy,
le star,
poker,
oui.
Etc.
Et est-ce que ça, elle dépense de l'argent aussi?
Non, du tout.
Donc c'est juste le temps qu'elle passe et qui fait que vous n'avez plus de temps tous les deux?
Mais le temps qu'elle passe, ça se comptabilise en heures, hein, en heures.
Oui, j'ai bien compris. Vous êtes jaloux en fait du poker?
Non, je suis pas jaloux. Je suis malheureux. C'est pas question de jalousie. C'est moi, je me suis déjà dit, pourquoi tu te maintiens pas à une heure ou deux, ou aller peut-être maximum.
Vous savez, Philippe, je crois qu'elle a besoin en l'occurrence de se faire soigner. Hein. On est vraiment dans un problème d'addiction là.
Oui, moi je pense aussi. Je pense aussi, vous savez, il y a quelque chose. Les joueurs, pourquoi ils jouent? Ils jouent pas pour perdre, ils jouent pas pour gagner. Ils jouent pour le thrill. En anglais, le thrill, T-H-R-I-2-L, c'est le frisson. C'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est une vraie drogue. Hein, les neurobiologistes l'ont détecté. C'est une véritable drogue. C'est ce frisson du jeu où on risque, on bluffe, etc. Et ça, le problème, c'est que ça réagit exactement comme une drogue. Exactement comme une drogue. Donc, moi, je pense qu'elle y met, alors, des analyses, des psychanalystes diraient qu'elle investit le poker, elle en fait un objet de substitution d'autre chose. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'elle y met comme enjeu là-dedans. Est-ce qu'elle joue au poker pour fuir quelque chose? Est-ce qu'elle joue au poker pour essayer de se découvrir, d'avoir du plaisir personnel? Qu'est-ce qu'elle y met? Moi, je pense qu'il y a deux choses à faire. D'abord, c'est essayer de comprendre, comme une sorte d'enquête policière, qu'est-ce qu'elle met là-dedans, comme enjeu, comme investissement, comme énergie, quelle symbolique elle y met. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement l'inviter à faire un travail sur elle-même parce que ça rend pas heureux, ni elle ni vous apparemment.
Hier, Philippe, je conseillais à une auditrice qui était avec un homme qui avait une addiction, c'était autre chose que le jeu certes, mais je lui disais, il faut qu'il se rende compte que vous êtes prête à le quitter si ça ne change pas. Et vous, c'est pareil, Philippe, il faut que vous lui fassiez comprendre qu'il faut qu'elle se soigne. Il y a des spécialistes de l'addiction maintenant, nous en avions hier un comme invité. Et voilà tout, vous n'avez pas le choix parce que sinon votre couple va aller à la catastrophe et de toute façon, plus vous attendrez, plus ce sera compliqué. Merci Philippe en tout cas de votre appel. 32-16, parlez-nous d'amour, n'hésitez pas, tout de suite après les infos, on se retrouve. Mais tout de suite notre histoire coquine du jour avec Lionel Busson que l'on retrouve dans la pièce « Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières ?»
Allez, aujourd'hui, Brigitte, je vous emmène à la campagne. En effet, un visiteur frappe à la porte et demande hospitalité. Le fermier lui demande ce qu'il fait dans la vie. L'autre répond « Je suis poète, poète provençal, un troubadour en quelque sorte ». Le fermier accepte de l'héberger dans la grange et dit à sa fille « Oh là, il y a un type bizarre dans la grange. Il dit qu'il est poète. » « Je vais voir ça », dit la fille. Elle se pointe dans la grange. « Alors comme ça, vous êtes poète. Eh ouais, je fais des vers, des rimes. Quel est ton nom ?» « Moi, c'est Gervaise. Eh bien, Gervaise, viens ici que je te baise. » Il la prend, la couche sur le foin et lui fait son affaire. Peu après, la fille revient voir son père. Il est super ce gars, il fait des poèmes. La mère se décide à aller le voir. Alors comme ça, vous faites de la poésie? Oui, je suis un barde, un troubadour. Quel est ton nom? Moi, c'est Annick. Oh, Annick, viens là que je te nique. Il se rue sur elle et lui fait son affaire dans le foin. La mère retourne à la ferme. Oui, m'a fait un grand poème, boudiou que c'était beau. Le mari dit alors, vendiou, faut que j'aille voir ça moi aussi. Et c'est alors que la mère et la fille lui barrent la route en criant, non, Hercule, n'y va pas.